Dialogue sur la mort. Une émission proposée par Christian de Cacret.
Amis auditeurs des dialogues sur la mort et donc sur la vie, bonjour. Notre invitée aujourd'hui est une psychologue clinicienne qui, après avoir exercé pendant de longues années en cabinet libéral et à l'hôpital, est à présent membre de l'équipe mobile de soins palliatifs de l'hôpital universitaire Lariboisière Fernand Vidal. Elle est par ailleurs formatrice à l'espace éthique Île-de-France et c'est, au fond, forte de la diversité de ses emplois, qu'elle s'intéresse au deuil des soignants. Emma Joux, bonjour.
Bonjour.
Alors, je me dis que peut-être il faudrait commencer par une définition, parce que deuil des soignants, qui est une formule qu'on a pris l'habitude d'entendre, n'est pas si intuitif que ça, deuil, tant de douleurs. Peut-on effectivement être en souffrance après avoir accompagné un malade ?
Oui. On peut être en souffrance après avoir accompagné un malade. Après, le mot deuil est un mot un peu générique. Et en effet, normalement, il se définit par un temps où on va ressentir le manque de l'être aimé. Et évidemment, pour les soignants, il ne s'agit pas de la même chose. Il s'agit plus de répétition. Il s'agit plus de multiplicité, puisque à l'hôpital, c'est là où les Français décèdent majoritairement. Et donc, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, en fait, d'accompagner la fin de vie. Et il y a de la souffrance qui trouve peu d'espace pour se dire.
Est-ce que vous considérez que cette question, aujourd'hui, est trop peu prise en compte, trop peu considérée pour ce qui est des soignants, mais même pour la société tout entière, au fond, que nous avons tous, collectivement et individuellement, besoin d'entendre parler de cela pour considérer ce que vivent aussi les soignants, dès lors qu'ils sont confrontés, comme vous venez de le dire, si souvent au trépas des malades.
Oui, moi en fait, je pense qu'on peut pas nier cette part de souffrance et cette réalité pour les soignants. On en fait une image idéalisée. On n'a pas forcément envie, la société n'a pas forcément envie de voir que ces gens qui prennent soin des autres peuvent souffrir dans leur travail, parce qu'ils créent du lien avec leurs patients, avec les familles, souffrir finalement de cette perte. D'une certaine façon. De toute façon, accompagner les soignants pour qu'ils continuent à soigner, prendre soin de ceux qui soignent, pour moi, c'est essentiel pour qu'on puisse continuer à s'épanouir dans ce travail-là.
Il faut gérer la contradiction réelle sur le terrain, qui est qu'on va à l'hôpital pour être guéri, et puis statistiquement, on voit bien qu'on y va aussi pour mourir de façon très importante. Et d'ailleurs, ce lieu a beaucoup de mal à assumer ces deux missions, alors que déjà, il n'y a pas ça dans le vécu de tous ces soignants, qui est qu'ils sont porteurs de cette promesse de guérison.
Et pourtant, en effet, ils sont porteurs d'une promesse de guérison, ou alors, en tout cas, c'est pour ça qu'ils deviennent soignants. Hein. C'est pour guérir, apporter du mieux, mais on peut aussi apporter du mieux en accompagnant la fin, pour qu'elle soit bien, justement, qu'il n'y ait pas de souffrance, ou en tout cas le moins possible, qu'il y ait le plus de confort possible, que les familles soient accompagnées, qu'on mette du sens sur ce qui se passe. Et ça, c'est une mission de l'hôpital public. C'est une mission des soignants à part entière.
Accompagner cette fin pour qu'il y ait du mieux, est-ce que ça s'apprend et est-ce que, alors vous allez me dire c'est l'esprit des soins palliatifs, mais est-ce que c'est pas toujours à recommencer, parce qu'au fond on n'est jamais sûr du résultat. Dans un soin curatif technique, on est à peu près en phase, mais là il y a toute la part de l'humain, du subjectif, de ce qu'on peut pas maîtriser, comment les gens vont être face à ce devenir qui est celui du lâcher prise et de l'inconnu qu'est la mort.
Mais c'est du cas par cas, c'est du cas particulier à chaque fois, puisque c'est la mort d'un être, c'est quelque chose d'exceptionnel et d'unique. Donc en fait, on doit s'adapter à l'unique et c'est pas quelque chose de reproductible à l'identique qu'on peut protocoliser. Il y a des choses en soins palliatifs qu'on peut protocoliser. Des traitements,
des
prises en charge de la douleur, voilà. Mais la relation, c'est à chaque fois une nouveauté. Et on doit s'adapter à cette nouveauté-là. Évidemment, ça s'apprend, et que plus on le fait, plus on est à l'aise. Plus on est à l'aise avec le chagrin, avec les questions que vont nous poser les patients, les proches. Et oui, ça s'apprend. Et c'est pour ça qu'on fait de la formation continue, et c'est pour ça qu'on ne s'arrête pas. Et que à chaque prise en charge spécifique dans un service, on peut justement s'améliorer.
Avant la formation continue, il y a la formation initiale. Qu'est-ce que l'on dit aux soignants pour qu'ils deviennent un bon soignant du point de vue de cette question de la fin de vie et de la mort ?
On leur dit pas grand-chose, parce qu'il y a pas beaucoup de cours concernant la fin de vie. Il y en a, hein, mais ça peine un peu à exister. Donc c'est surtout sur le tas, c'est sur les lieux de stage, c'est à l'hôpital en fait que ça s'apprend. Et c'est dans le compagnonnage, c'est en étant les uns à côté des autres qu'il y a de l'apprentissage. Mais c'est pas l'université principalement. Hein.
Les soignants étant des êtres humains, il y a aussi probablement des situations de projection, des situations comme ça où les propres fragilités des soignants vont rejaillir sur la façon dont ils vont vivre cet accompagnement. Alors, comment est-ce que vous, dans votre rôle de psychologue clinicienne, vous travaillez cet aspect des choses ?
La projection. On va dire que voir quelqu'un, un autre être humain, mourir, ou d'autres personnes, d'autres êtres humains souffrir du chagrin de la perte, mais ça nous ramène à nous, en fait, à notre propre finitude, et que c'est pas parce qu'on est soignant qu'on est invulnérable de ce côté-là. Et c'est justement c'est en mettant du sens. Moi, mon travail, c'est de rappeler en fait notre vulnérabilité, qu'on n'est pas tout puissant, que nous aussi on a perdu des gens, qu'on va en perdre, qu'un jour aussi, nous aussi on va mourir, et que si ça nous touche, s'il y a des prises en charge qui sont plus difficiles que d'autres, c'est aussi en lien avec notre histoire personnelle, et comment on va s'identifier à certaines personnes. Les patients jeunes génèrent beaucoup de projections, les décès brutaux, avec de l'incompréhension, et ça, c'est principalement en mettant du sens que ça permet aux soignants de prendre la juste distance, et non pas comme on pourrait imaginer, être dans la juste distance en étant un peu réservé émotionnellement ou en fuyant ces situations-là. C'est plutôt en étant conscient de ce que ça nous fait que ça permet d'aider au mieux.
Les gens qui travaillent sur le deuil aiment ajouter deuil, virgule, perte et renoncement. Et dans le processus médical, on imagine bien, on le sait tous, qu'il y a des pertes et des renoncements. On va pas du jour, enfin, il y a des gens qui décèdent brutalement, mais plus généralement, par exemple, dans une pathologie cancéreuse, il va y avoir des pertes de fonction, et ça aussi, ça touche les soignants.
Quand on accompagne quelqu'un sur du long cours, on voit sa diminution physique, on voit la perte de l'autonomie, on voit parfois le repli sur soi, et le fait qu'un patient pouvait jusqu'alors recevoir sa famille, être communicant et être dans la relation avec le soignant, petit à petit se replier sur lui-même. C'est pas juste le deuil de final, on va dire. C'est des pertes, et des pertes on en fait tous les jours. On voit tous les jours les gens perdre des choses, et on traverse ça aussi en tant que soignant.
Alors, je me suis aussi intéressé en voyant un peu ce que sont vos travaux à ce qu'un psychiatre que je ne connaissais pas, mais qui s'appelle Emmanuel Goldenberg, a dit lorsqu'il parle d'une possibilité d'état de désespoir thérapeutique. Alors là, ça paraît complètement dramatique, c'est-à-dire c'est le soignant qui est en burn-out, quoi, qui dit j'en peux plus, j'arrête, je suis totalement désespéré parce que je ne peux plus supporter de voir ces gens mourir.
Par exemple, ou je ne peux plus supporter de ne plus pouvoir les soigner, ou mon idéal du soin est tellement attaqué que mon identité, parce que ce sont des métiers identitaires, hein, les métiers du soin, que mon identité est attaquée elle-même, parce que je me rends compte que la réalité ne correspond pas à ce que je m'étais fait comme idéal dans ma tête. Et c'est une souffrance éthique, en fait. C'est les valeurs du soin qui sont attaquées. Et ce n'est pas juste en lien avec la souffrance des patients ou leur décès, c'est aussi avec les moyens qu'on donne aux soignants pour soigner. Parce qu'on peut être de toute la bonne volonté du monde, mais il faut avoir les bons moyens pour soigner les gens et s'en occuper correctement. Mmh. Et parfois, on est pris en étau. Entre ce qu'on voudrait faire et ce qu'on peut faire dans la réalité.
Est-ce que pendant la crise sanitaire, vous avez vu des soignants raccrocher, dire j'en peux plus, j'arrête
Après la crise sanitaire.
Oui.
Pendant, non, parce que là, ils étaient investis, mmh. et il y avait du sens. Voilà, il fallait être là et les gens étaient présents. Mais par contre, ils ont donné énormément d'eux-mêmes en travaillant beaucoup plus, avec des heures de travail beaucoup plus importantes et un quotidien extrêmement difficile avec beaucoup, beaucoup de décès au début. Hein. Et donc, il y a des gens qui ont raccroché après.
J'ai relevé qu'un professeur de médecine, Thibaut Damy, s'était mis en marche, comme ça, sur ce thème-là, pour éveiller les consciences. Bon, c'est un comportement individuel, qui peut d'ailleurs avoir de l'écho, mais qui est porteur de quoi? C'est un appel? Vous pensez qu'il y a vraiment besoin de tirer la sonnette d'alarme, de conscientiser nos contemporains sur cette souffrance sourde, sur cette omerta autour de ce deuil?
Oui. C'est pas que le deuil, c'est que soigner, ça a des conséquences qui peuvent être négatives, que les gens peuvent en souffrir, que c'est pas gratuit, dans le sens on donne quelque chose de soi quand on soigne l'autre, et que par exemple ce médecin va parler de ce qu'il a vécu, de ce que vivent aussi ses collègues, je pense qu'il faut Il faut pas se taire là-dessus.
Eh bien, écoutez, Majoui, vous ne vous êtes pas tue ce matin et vous nous avez en tout cas beaucoup enseigné, beaucoup ouvert à cette réalité très humaine du deuil des soignants. Je vous remercie et je rappelle que vous êtes membre de l'équipe mobile de soins palliatifs des hôpitaux universitaires La Riboisière, Fernand Vidal.
Merci. Merci.
Nous continuons nos programmes avec Halte Spirituelle, avec Madeleine Vatel.
Et nous poursuivons toute cette semaine nos réflexions autour de l'existence de Dieu après l'horreur de la Shoah. Contrairement à la parole chez les nazis qui veut que tout le monde soit aligné, la parole dans la Bible est celle de Babel, s'entendre dans la diversité. Nous poursuivons cette semaine, dans Halte Spirituelle, cette réflexion autour de la Shoah.